Je me suis intéressé à la poésie d'un point de vue protestant. C'est-à-dire que j'ai fait des études de théologie assez longues, très longues même, et je me suis rendu compte que de temps en temps, je tombais sur des textes qui étaient des textes poétiques, des textes essentiellement en vers, mais je n'avais pas de vision d'ensemble de la chose. Et longtemps après mes études, dans l'exercice, j'allais dire quotidien, pas quotidien, les cultes c'est une fois par semaine, on va dire hebdomadaire, je me suis dit, tiens, ces textes poétiques que j'ai rencontrés lors de mes études, lors de mes lectures, on n'en trouve pas vraiment trace dans les liturgies qui nous sont proposées. Donc je suis pasteur dans une église luthéro-réformée, qu'on appelle église historique. Et ça m'a questionné, et j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai déroulé tout le fil des liens entre protestantisme et poésie. Alors je suis parti du XXe siècle, où il y a des choses, mais pas tant de choses que ça, pour remonter au XIXe, au XVIIIe, au XVIIe et au XVIe, où il y a une richesse incroyable en termes de textes poétiques autour du protestantisme. Donc, comme j'avais tous les éléments et que personne d'autre l'avait fait à ma place, donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être rendre service et publier la chose, publier le fruit de mes recherches. Et donc effectivement, j'étais accueilli par les presses universitaires de Strasbourg pour publier cette anthologie. Alors, ce n'est pas une anthologie de la poésie protestante parce que le terme poésie protestante pose problème assez rapidement. Au XVIe siècle, on voit à peu près ce que c'est, puisque les clivages sont très très marqués. Mais vous verrez, au fur et à mesure des siècles, les choses sont moins nettes. Donc je me suis intéressé à la trace qu'a laissé le protestantisme dans la poésie française. Présence très forte au début, et puis présence peut-être un peu moins forte par la suite. Donc Stéphane vous a distribué des feuilles, j'espère qu'il y en a au moins une pour deux personnes. Donc je vous invite à un petit survol, juste pour qu'on puisse suivre un exposé où il y aura beaucoup de noms et beaucoup de dates. Donc si vous avez la feuille sous les yeux, vous verrez que les périodes sont assez nettement marquées. Il y a deux périodes au XVIe siècle. Alors au XVIe siècle, la première période, c'est celle qui va de 1539 à 1562. 1562, c'est le début des guerres de religion. Et c'est la constitution du psautier huguenot. Je vais y revenir très rapidement. Ensuite, la deuxième période, c'est la période des guerres de religion. Vous savez que les guerres de religion en France ont ensanglanté le pays pendant quasiment une trentaine d'années. De 1562 à 1598, où c'est la date de l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV. La période suivante, c'est la période où il y a l'édit de Nantes, c'est à peu près un siècle, de 1598 à 1685. Donc pendant les guerres de religion, les poésies sont des poésies de combat. Et puis ensuite, quand il y a l'édit de Nantes, on abandonne la guerre et on s'intéresse à des choses en tout cas moins guerrières et moins violentes. Ensuite, il y a la révocation de l'édit de Nantes par le grand-père d'Henri IV, Louis XIV, plutôt le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV. Et donc là, c'est les persécutions. Et puis ensuite, il y a le retour des protestants en France, en tout cas le retour administratif et officiel des protestants en France, c'est le XIXe siècle. Et ensuite, on a la période du XXe siècle, donc les Français de l'intérieur, puisque vous savez que je suis alsacien, donc il y a deux France pour moi, il y a la France concordataire et la France de l'intérieur. Donc pour les Français de l'intérieur, il y a la date de 1905, qui est une date importante, puisque c'est la séparation de l'Église et de l'État. En Alsace-Moselle, on était allemand à l'époque, on n'a pas été touché directement par ce texte. Mais enfin, c'est une date importante. Donc je vous propose de prendre les choses par période. Et on va commencer donc par la toute première période. C'est la réforme, la première période. Donc je ne sais pas si vous êtes tous protestants. Et si vous êtes tous protestants, je ne sais pas si vous êtes vraiment familiarisés avec l'histoire du protestantisme. Donc on va rappeler quelques fondamentaux. Donc la première date qu'il faut connaître, c'est octobre 1517. C'est là où officiellement les choses commencent. Donc Martin Luther, qui est un moine allemand, professeur de théologie, rédige un texte très important contre les indulgences promulguée par l'Église catholique, promulguée et mise à la vente, qui permettait d'économiser des années de purgatoire. Donc Luther est en train de travailler sur l'Épître aux Romains, et dans l'Épître aux Romains, il est marqué que le salut est gratuit. Et comme il connaît très bien sa Bible, il sait que, enfin, en tout cas, il dit que le purgatoire, ça n'existe pas. C'est comme ça que les choses commencent, et puis après, ça va se développer. Ça, c'est l'histoire, vous connaissez. Donc ça, on est en octobre 1517. Six mois après, Luther est à Heidelberg, où il doit défendre ses thèses devant son ordre religieux, puisque Luther est moine. Donc il y va, c'est une dispute de type universitaire, il y a donc un public. Et dans le public, il y a un étudiant en théologie alsacien qui s'appelle Martin Bucer, qui va être très très impressionné par ce qu'il a vu, et qui va épouser les thèses de Luther. Il va rentrer en Alsace et il va devenir le réformateur de Strasbourg. Et donc en 1524... c'est Bucer qui dirige les choses spirituelles et protestantes à Strasbourg. Il décide que sur la question du culte, non seulement on va chanter, l'assemblée va chanter et va chanter dans la langue du peuple, c'est-à-dire va chanter. Strasbourg est une ville allemande. On va chanter en allemand et on va chanter des textes bibliques. Et donc Bucer va mettre en œuvre un recueil de cantiques avec des psaumes de l'Ancien Testament, donc les psaumes attribués à David. Et on va chanter les psaumes sur des musiques populaires dans les cultes à Strasbourg. Et le fait de faire ça, ça va avoir un retentissement très important dans toute l'Europe, c'est-à-dire que les visiteurs, ceux qui viennent à Strasbourg, c'est quasiment du tourisme spirituel, vont assister au culte strasbourgeois en langue allemande et vont entendre, émerveillés, ces cantiques qui sont donc des psaumes traduits et versifiés. Pour que ça chante, il faut qu'il y ait des vers. Voilà. Et donc ça va remonter jusqu'à la cour du roi François Ier, où sa sœur Marguerite de Navarre apprend ça et trouve que c'est une super idée. Donc on est en 1524, donc on est très très tôt encore, hein, vous voyez, dans le développement. En 1524, Calvin n'est pas encore protestant, il le sera à partir de 1533, donc on est très tôt. Et puis parallèlement à ça, le plus grand poète de cette partie du siècle s'appelle Clément Marot. Clément Marot tombe malade et il décide de traduire et de versifier, parce que c'est un poète, il décide de traduire le psaume 6. Et donc il va faire ça pour lui, c'est ce qu'on appelle un psaume de pénitence, et il va le faire à titre personnel. Et Marot va guérir de sa maladie, et donc les psaumes vont arriver à la... Ce psaume-là, et il va en faire quelques autres, vont arriver à la cour du roi François Ier, et ça va avoir un succès incroyable à la cour du roi de France. C'est-à-dire que ça va être la nouveauté, et tout le monde va trouver ça formidable, sauf la Sorbonne catholique, qui trouve que c'est pas bien que la Bible soit traduite en français, et non seulement traduite, mais versifiée, ça veut dire que c'est pas une traduction mot à mot, c'est une paraphrase, en fait. Et donc, ça va être condamné au bout d'un moment. Mais enfin, la chose est lancée, et l'existence de ces psaumes par Clément Marot, il y en a une dizaine, va vraiment marquer la cour du roi de France, malgré la condamnation par la Sorbonne catholique. En 1534, le roi François Ier décide, qui ne s'intéresse pas du tout aux questions religieuses, mais qui se sent en danger par rapport à la montée de ces nouvelles idées, se décide, suite à l'affaire des placards, à persécuter les protestants. Et donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à un protestant est obligé de s'enfuir, sous peine d'être arrêté et éventuellement exécuté. Donc ça concerne en particulier le jeune Jean Calvin, qui était étudiant et qui s'est converti l'année d'avant, 1533. Et ça concerne aussi Clément Marot. Alors, ce n'est pas que Clément Marot soit protestant, mais ses adversaires considèrent qu'il l'était. C'est-à-dire que la Sorbonne catholique le détestait. C'était un poète assez, aujourd'hui on dirait assez cool, assez libre, avec des mœurs un peu fun, on va dire ça comme ça. Et il était très mal vu. Et donc, il a été accusé, on appelait ça à l'époque, il était accusé de luthérisme, qui était un truc vachement grave. D'ailleurs, il a fait quelques jours de prison à cause de ça. Et donc, il s'enfuit. Donc tout ce qui est protestant est obligé de s'enfuir. Et Calvin et Marot, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer en exil en 1535 à la cour de René de France, à Ferrare, c'est en Italie, un petit château, et ils se retrouvent pendant quelques semaines là. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on sait juste qu'ils se rencontrent. Et ensuite, Calvin va aller à Genève pendant un petit moment, il va être viré de Genève, et il va être accueilli à Strasbourg en 1538, où c'est Martin Bucer qui l'accueille. et qui lui dit « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la communauté française, des réfugiés français qui arrivent dans Strasbourg, qui, je le rappelle, est une ville allemande ». Et donc ces dissidents de langue française n'ont pas accès au culte en allemand, ils n'y comprennent rien, et ils sont de plus en plus nombreux, et il leur faut un pasteur. Et donc Martin Bucer va proposer à Jean Calvin de devenir le pasteur de cette communauté française. Et donc Calvin se retrouve pasteur pour la première fois. Il était connu comme théologien, il est encore assez jeune, hein, je pense qu'il a à peu près 30 ans. Il est connu comme théologien, et là il a un problème, c'est qu'il faut qu'il fasse des cultes, et il ne peut pas les faire chanter en allemand parce que ça ne va pas. Et donc il va constituer un premier recueil de psaumes sur le modèle allemand. Donc c'est des psaumes simplement traduits en français. Donc il a récupéré une douzaine de psaumes chez Clément Marot, et lui-même va en traduire 5. Et il va faire le premier recueil de cantiques et de psaumes en langue française. Donc, comme je suis assez ludique, je m'étais posé la question de savoir quel était le premier ouvrage de poésie protestante. Eh bien, c'est celui-là, c'est en 1539. Et j'ai ici un fac-similé. Ceux qui s'intéressent à ce genre de... C'est très, très rare. Hein. Ceux qui s'intéressent à ce genre de choses pourront venir le regarder à la fin, il n'y a aucun souci, je le mettrai à disposition. C'est le premier recueil de cantiques protestants en langue française, et même d'ailleurs protestants ou autres, puisque les catholiques ne chantaient pas en français. Voilà. Donc en 1539, on a un recueil de cantiques avec de la musique, c'est les Mélodies de Strasbourg, et il y a les textes de Marot et de Calvin, et donc c'est le premier recueil de cantiques. Vous savez que Calvin n'est pas resté à Strasbourg très longtemps, puisqu'en 1541, il regagne Genève. Genève le rappelle, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur en le virant et qu'ils avaient besoin de lui, donc il le rappelle. Il quitte Strasbourg à regret, mais enfin il va à Genève, et il va demander à Clément Marot de poursuivre les traductions. Et donc Clément Marot, qui, je le rappelle, n'est pas protestant, en tout cas pas au sens de Calvin ni de Théodore de Bèze. C'est quelqu'un qui a une vie que n'approuvent pas les réformateurs, on va dire ça comme ça, mais qui est considéré comme protestant par ses ennemis, donc il est un peu entre deux chaises. Il va poursuivre le travail, il va traduire, paraphraser et versifier, de façon à ce que ça puisse se chanter. Il faut que ça ressemble à de la poésie et que ça rime. Il va continuer ce gros travail sur les psaumes, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un travail considérable. Vous avez un texte en hébreu, vous le traduisez en français, donc forcément ça ne rime pas, et il faut le faire rimer tout en restant proche du texte. C'est hyper compliqué, c'est un gros, gros travail. Et donc Calvin va charger Clément Marot de faire le boulot. Et là, il y a un moment assez remarquable, c'est que Calvin, qui est un très grand écrivain, ce n'est pas un poète, mais c'est un très grand écrivain, il va retirer ses propres traductions pour que Clément Marot retraduise les textes en question. Et ça, pour l'époque, c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque Calvin, je vais le dire de façon un peu triviale, va donner les clés du camion à quelqu'un qui est, on va dire, spirituellement un peu incertain, mais qui est le plus grand poète français de l'époque. Et d'ailleurs, Théodore de Bèze, qui va être l'assistant de Calvin à Genève, n'était pas d'accord. Lui, il trouve que Marot est très fort techniquement, mais lui, il lui aurait pas confié ce travail. Mais Calvin a tenu bon, et donc Clément Marot va faire le boulot, jusqu'en 1544, où il meurt prématurément à Turin. Et donc, il a eu le temps de traduire 49 psaumes. Donc, vous savez tous qu'il y en a 150, donc il en restait 101. Et donc, c'est Théodore de Bèze, qui est un grand théologien, qui est aussi un poète, qui avait fait de la poésie dans son jeune âge en langue latine, qui va poursuivre le travail, qui va traduire et versifier les 101 psaumes restants. Et donc, en 1562, le boulot est terminé. Les 150 psaumes sont traduits et versifiés. Et les protestants ont à leur disposition l'intégralité des psaumes pour être chantés dans les assemblées. Voilà. Quand l'ouvrage sort en 1562, c'est un succès incroyable pour l'époque, puisqu'ils en écouleront au moins 30 000 la première année. Alors 30 000 à l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est considérable. C'est un best-seller absolu. Et ça va avoir un succès énorme. Ça va être traduit en allemand, en hollandais, en anglais, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la première période des liens entre poésie et protestantisme en France. C'est la période qu'on pourrait appeler liturgique. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on chante. Voilà. Alors, on a décidé qu'on allait chanter en langue du peuple. Ça, c'est Bucer qui l'avait dit en 1524. et qu'on chantait la Bible. Et dans la Bible, ce qu'on chante, eh bien, ce sont essentiellement les psaumes. Voilà. Et donc ce travail considérable va être achevé à ce moment-là. Et la date est assez intéressante, puisque 1562, et on passe à la seconde période, c'est le début des guerres de religion. Avant de passer à la seconde partie, j'aimerais vous lire, que vous voyez quand même un peu à quoi ça ressemble. Je ne doute pas que certains d'entre vous sont habitués à lire le français du XVIe siècle, mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'avoir deux textes que tout le monde connaît, en tout cas que tous les protestants connaissent, et les catholiques aussi sans doute, qui sont des textes très connus sur lesquels Marot a travaillé, et il les a mis en vers, il les a versifiés. Et le premier de ces textes, c'est le Notre Père. C'est-à-dire que Marot a fait une version rimée du Notre Père. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un peu du travail dont il est question. Et en plus, sa version est, je trouve, magnifique au plan de la langue française. Donc je vais vous la lire. Il y a juste un mot que moi je ne connaissais pas, vous le connaissez peut-être, c'est côteleux. Côteleux, ça veut dire sournois. C'est un terme du XVIe siècle qu'on utilise, les gens très littéraires peuvent encore l'utiliser aujourd'hui, mais ce n'est plus vraiment usité. C'est côteleux. Voilà. Donc je vais lire à un moment donné, ça signifie sournois. L'oraison de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est notre Père. Père de nous, qui est là-haut, est cieux, sanctifié soit ton nom précieux. Adviento, ton saint règne parfait. Ton veuille en terre ainsi qu'au ciel soit fait. À ce jour-d'hui, sois-nous tant débonnaire de nous donner notre pain ordinaire. Pardonne-nous les maux vers toi commis, comme faisons à tous nos ennemis. Et ne permets en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire. Mais du malin côteleux et subtil, délivre-nous, ô Père, ainsi soit-il. Pour moi, c'est parfait. C'est vraiment en plan littéraire. Voilà. Et puis le psaume 23, que la plupart d'entre nous connaissons. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a fait aussi une version. Donc il y a un passage qui est un peu quasi médiéval. Donc le passage, c'est en tout, bien sûr, ça veut dire en toute sécurité. En toute sécurité. Donc psaume 23. Mon Dieu me paie sous sa puissance haute. C'est mon berger. De rien je n'aurai faute. En toute, bien sûr, joignant les beaux herbages, coucher me fait, me mène au clair rivage. Traite ma vie en douceur très humaine. Et pour son nom, par droit sentier me mène. Si sûrement que quand au val viendrai, d'ombre de mort, rien de mal ne craindrai. Car avec moi, tu es à chacune heure. Puis ta houlette et conduite m'assure. Tu enrichis de vivres nécessaires ma table aux yeux de tous mes adversaires. Tu oins mon chef d'huile et senteur bonne, et jusqu'au bord, pleine tasse me donne. Voir et fera que cette faveur tienne, tant que vivrai compagnie me tienne, si que toujours de fer et espérance, en la maison du Seigneur demeurance. Voilà, si vous connaissez le texte français de Louis II, en général on connaît la version de Louis II, qui d'ailleurs est une très très belle version. Là on a la version rimée. Donc il y a un travail en fait considérable, parce que non seulement il y a la rime, mais il y a le nombre de pieds aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est une vraie poésie, quoi. Donc c'est un travail considérable. Et c'est la manière dont les protestants ont été confrontés à la poésie dans cette partie, dans ce deuxième tiers du XVIe siècle. Il s'agit d'assurer les cultes et donc de savoir qu'est-ce qu'on chante. Voilà. On chante les psaumes, on les chante en français et c'est versifié. Et c'est Clément Marot et Théodore de Bèze qui ont fait le boulot. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, en 1562, c'est les guerres de religion. Alors, vous savez que ça commence par un massacre à la grange de Vassy, il y a des protestants, donc des dissidents religieux qui tenaient un culte, et puis il y a des troupes qui sont passées, des troupes catholiques qui sont passées, et cette troupe a massacré les protestants, ça démarre comme ça. Donc les guerres de religion, il y en a eu 8, ça a duré de 1562 à 1598, et donc là on n'est plus dans l'ambiance liturgique, mais on est dans l'ambiance de combat, et ça commence avant même le début des guerres de religion, puisqu'en 1561, il y a une polémique extrêmement violente entre Pierre de Ronsard, qui est l'un des grands poètes du XVIe siècle, et les protestants genevois. Alors Pierre de Ronsard, comme la plupart des intellectuels de l'époque, a été dans un premier temps intéressé, pour ne pas dire séduit, par ces nouvelles idées. Voilà, parce que les théologiens protestants sont des gens brillants et que du point de vue catholique, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Donc tous les intellectuels du royaume ont été intéressés par ça. Et puis Ronsard finalement n'a pas poursuivi parce qu'il a été traumatisé par le désordre que ces nouvelles idées provoquaient. C'est-à-dire qu'il le dit dans un poème, le fait qu'un boulanger hirsute puisse se lever et dire « je vais prêcher la bonne parole », pour lui, c'est inconcevable. C'est le désordre, c'est le chaos, et ça ne va pas. Voilà. Donc il va polémiquer avec les protestants, et il va avoir un adversaire, il va le viser. Cet adversaire, c'est Théodore de Bèze. Théodore de Bèze est l'un des grands intellectuels de la Réforme, c'est l'assistant de Calvin. Alors en 1561, Calvin est toujours vivant, puisqu'il meurt en 1564, mais enfin, on va dire qu'il est en bout de course, et la personnalité dominante, c'est Théodore de Bèze. Et donc, il y a des poèmes entiers qui sont consacrés à attaquer Théodore de Bèze sur plein d'aspects. Par exemple, Théodore de Bèze se promenait armé, ce qu'on peut comprendre vu l'époque. Donc, il y a un poème sur ça, sur le fait qu'il est armé et que ça ne va pas du tout pour un pasteur, etc., etc. Donc, ça va être une polémique très, très violente. Et Théodore de Bèze ne va pas répondre. Il va garder le silence sur ses attaques de Ronsard. Et ce sont deux autres pasteurs de Genève que Ronsard considérait comme des seconds couteaux qui vont répondre. Et le fait que Théodore de Bèze ne réponde pas, ça va vexer Ronsard, mais à mort, quoi. C'est-à-dire qu'il va se sentir humilié au dernier degré et donc il va relancer. Et donc il y a trois ou quatre très grands et très longs poèmes contre les protestants qui seront les œuvres de Ronsard les plus vendues de toute la vie de Ronsard. C'est-à-dire que c'est celles qui auront le plus de succès. C'est ces poèmes, donc notamment « Discours des misères de ce temps »,« Continuation des discours des misères » et « Remontrance au peuple de France », qui sont des très longs poèmes où les protestants sont attaqués, avec parfois un certain panache, je dois dire. Il y a un poème notamment où il fait rimer plein de mots en haut, « Visigoth, Ostrogoth, Goth et ?»«
Huguenot ».«
Huguenot ». Eh oui, et c'est très fin en fait. Parce que ça indique la provenance du protestantisme. C'est un truc qui vient d'Allemagne, et les Allemands sont des barbares. C'est très, très bien vu. Et donc, c'est Ronsard, c'est très fin. Les poèmes anti-protestants de Ronsard sont super intéressants. À un moment donné, il dit aux poètes genevois qui ont répondu à ses attaques, de toute façon, très belle phrase, « Vous êtes tous issus de la grandeur de moi. » C'est-à-dire, je suis le plus grand poète de tous les temps, et si vous faites de la poésie, c'est parce que je vous ai précédé. Vous voyez l'ambiance. On est quasiment dans du rap. Je veux dire, voilà. Ça aurait pu continuer longtemps. Théodore de Bèze n'a jamais répondu. Les seconds couteaux ont répondu. Ronsard était furieux. Et c'est Charles IX qui décide, à un moment donné, que ça suffit. On devait être entre deux périodes de guerre. Et que voilà. Et donc, il a réduit Ronsard au silence. Et la polémique s'est arrêtée. Et juste avant Ronsard, il y a un autre poète de la Pléiade, qui s'appelle Étienne Jodel, qui, a priori, n'a rien contre les protestants, il n'a rien pour non plus, en fait, il s'en fout un peu. C'est juste qu'il a été chargé d'organiser une fête pour le roi, et cette fête a été un désastre, au niveau de l'organisation. C'est-à-dire, rien ne s'est passé comme prévu, et ce qui devait être somptueux a complètement raté du début à la fin. Et donc, il s'est senti obligé de donner des gages de bonne volonté au pouvoir royal, qui était donc contre les protestants. Et donc, il a écrit, c'est quasiment une commande personnelle qui s'est faite, il a écrit un ouvrage qui est le premier ouvrage vraiment anti-protestant, qui s'appelle « Contre les ministres de la nouvelle opinion ». Donc, c'est les pasteurs. Voilà. Et c'est très, très bien fait, je dois dire. On sent qu'il s'en fout, mais il charge la barque. Et historiquement, en tout cas, c'est le premier ouvrage vraiment anti-protestant. Et l'intérêt des ouvrages anti-protestants, c'est qu'on apprend plein de trucs sur soi-même, en fait. C'est-à-dire que les protestants, enfin, si vous voulez savoir ce qu'étaient les protestants, comment ils étaient perçus, c'est intéressant de voir comment les adversaires les voyaient, parce que certains des arguments sont des arguments de bonne foi. Pas tous, mais certains. Donc, voilà. Donc ça commence, cette période commence donc avec cette polémique entre les poètes catholiques et les poètes protestants qui sont donc à Genève. Calvin est à Genève et autour de lui, il a réuni des intellectuels, voilà, dont certains poètes. Et puis, pendant cette période, il y a la constitution de deux œuvres considérables qui sont, alors une est assez connue, c'est les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Donc Agrippa d'Aubigné, c'est l'entourage d'Henri IV et c'est un guerrier. C'est un soldat et c'est un poète. C'est un grand soldat et c'est un grand poète. Et évidemment, il ne va pas du tout aimer la conversion d'Henri IV, ça ne va pas lui plaire du tout. Et à un moment donné, il est blessé, parce que comme il se bat sans arrêt, il a des blessures assez graves et il pense qu'il va mourir. Et donc il commence la rédaction des Tragiques, qui est un texte poétique. Je crois que l'ensemble doit faire 9500 ou 9600 vers, donc c'est une œuvre considérable, qui parle des guerres de religion et qui mélange allusions bibliques, allusions historiques. Et c'est un des grands ouvrages poétiques du XVIe siècle, toutes tendances confondues. Et il va mettre beaucoup de temps à l'écrire, mais il le débute pendant les guerres de religion et il le terminera une fois qu'on sera passé à l'édit de Nantes. Et ça va sortir pendant l'édit de Nantes et ça n'aura aucun succès. C'est-à-dire que pour lui, l'humiliation est double. C'est-à-dire que non seulement il a perdu la guerre, puisqu'Henri IV a fini par se convertir au catholicisme, mais en plus, son texte n'a pas été reçu. C'est-à-dire que pendant l'édit de Nantes, un peu l'ambiance, la philosophie, c'était on évite les sujets qui fâchent entre protestants et catholiques, le plus possible. Et son texte, qui est un texte guerrier, qui est un très très beau texte avec un souffle incroyable, finalement, personne ne va le lire. Il arrive trop tard. Voilà. Mais c'est le grand ouvrage protestant sur les guerres de religion. Et c'est un ouvrage qui a été réhabilité au XIXe siècle par la critique littéraire et qui est devenu maintenant un grand classique. Je suis suffisamment vieux pour avoir étudié le français dans le Lagarde et Michard. Je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous le connaissent. Et il y avait un chapitre qui était consacré à Agrippa d'Aubigné. Donc ça a été longtemps enseigné, je ne sais pas si ça l'est encore. Mais en tout cas, c'est un grand classique et voilà, il faut connaître ça. Et puis l'autre œuvre, qui est une œuvre cousine, c'est aussi une œuvre considérable, il y a 6200 ou 6300 vers, c'est la Semaine de Guillaume du Bartas. Alors la Semaine de Guillaume du Bartas, c'est le récit de la création, donc il prend les premiers versets de la Genèse, il va les versifier, donc les paraphraser, les versifier, et lui, son point de vue, c'est de mettre toutes les découvertes scientifiques du XVIe siècle dans son texte sur la création. Et du coup, forcément, ça enfle le propos. On arrive jusqu'à 6000 vers. Et il se permet aussi toutes les audaces stylistiques. C'est-à-dire qu'il essaye absolument tout ce qu'il peut d'un point de vue stylistique. Donc des fois, c'est réussi. Des fois, c'est un peu bizarre. Pour dire, par exemple, que le bois flotte, pour marquer le flottement, il va redoubler la première syllabe et il va écrire « le bois flotte ». Voilà. Ce qui est totalement ridicule, mais il a essayé. Et donc, c'est un ouvrage considérable, c'est très inégal, il y a des passages sublimes, il y a d'autres passages qui sont un peu plus durs à lire. Et ce qu'il faut savoir, pour l'anecdote, en même temps, ça lui a fait beaucoup de peine, c'est l'ouvrage qui a démodé Ronsard. C'est-à-dire qu'on a lu Ronsard, qui était toujours vivant, notamment les discours anti-protestants, et du jour où la Semaine de Du Bartas est parue, plus personne n'a lu Ronsard. Tout le monde s'est précipité sur cette poésie qu'on appelle poésie scientifique, et ça a complètement démodé Ronsard. Donc Ronsard, de son vivant, a été démodé par un auteur protestant. Si j'étais taquin, je dirais « Dieu a reconnu les siens ». Mais je ne suis pas taquin, donc je ne le dis pas. Mais en tout cas, Ronsard l'a super mal pris, comme il avait mal pris le silence de Théodore de Bèze, il a mal pris le fait que... voilà. Et donc c'est un ouvrage qui a eu un succès considérable à l'époque et qu'aujourd'hui, presque plus personne ne connaît. C'est-à-dire que c'est l'inverse des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Mais en tout cas, les deux œuvres, on va appeler ça, sont des œuvres cousines. Ce sont deux grandes fresques poétiques. Voilà. L'intérêt de la Semaine de Du Bartas, c'est que ça paraît pendant les guerres de religion, mais c'est un ouvrage, on pourrait dire, que les catholiques peuvent lire sans problème. C'est-à-dire, c'est à la fois sur la Bible et sur les découvertes scientifiques, donc ça concerne tout le monde. Et il y a une raison à ça, c'est que Du Bartas n'est pas un soldat, c'est un diplomate. Il avait des missions de diplomate pour Henri IV. Et donc, on annonce déjà l'édit de Nantes, même si ça paraît avant. C'est un texte qui a eu beaucoup, beaucoup de succès parce que tout le monde pouvait le lire. Je veux dire, quand vous êtes catholique et que vous lisez Agrippa d'Aubigné, c'est parfois un peu dur, quoi, parce qu'il exècre les catholiques et ça se sent dans son texte. Alors que Du Bartas, lui, c'est le diplomate. Voilà. Il n'y a pas d'attaque. Et donc, on a ces deux œuvres qui sont considérables. Alors, autour d'Henri IV, qui a eu une influence considérable, vous savez qu'Henri IV, je crois, a changé 6 fois de religion entre son enfance, enfin, il était ballotté entre son père, sa mère Et ensuite, il a voulu devenir roi de France et tout. Donc, il avait autour de lui une cour où il y avait à la fois des protestants et des catholiques. Voilà. Et donc, dans son entourage, il y a un auteur très important qui a été redécouvert il y a quelques années, c'est Jean de Sponde. Je ne sais pas si vous connaissez Jean de Sponde. C'est un auteur alors très calviniste, très austère, qui a fait une série de sonnets sur la mort qui sont parmi ce qu'il y a de plus beau dans la poésie française consacrée au sujet. Si vous pouvez lire Jean de Sponde, c'est vraiment magnifique. Ça a été redécouvert il y a peut-être 30-40 ans. C'était complètement passé à l'as. Parce que Jean de Sponde s'est converti au catholicisme en même temps qu'Henri IV. C'est-à-dire qu'il a suivi, Henri IV. Et du coup, les protestants ne l'ont pas lu, parce que c'est un renégat. Et les catholiques considéraient que c'était un protestant, même après conversion. Et donc, c'est complètement passé à l'as, et il n'a plus eu aucun succès. Ensuite, il a fait des ouvrages de propagande catholique que personne n'a lu non plus. Mais c'est ce que moi j'appelle ces ouvrages protestants, notamment les sonnets sur la mort, c'est quelque chose de considérable, quoi. Et ça se trouve relativement facilement. On peut les avoir relativement facilement. Donc ça, c'est un grand poète protestant, mais qui s'est converti au catholicisme avec Henri IV. Et puis, il y a encore un autre auteur, je ne vais pas vous abreuver de nom. D'ailleurs, moi-même, son nom m'échappe, mais il est formidable. C'est Jacques-David Duperron. Alors, Jacques-David Duperron, il est protestant. C'est un très grand théologien protestant, mais il a décidé à un moment donné de se convertir au catholicisme. Et c'est devenu un très grand théologien catholique. Et il était doté d'une mémoire phénoménale, c'est-à-dire qu'il connaissait... il suffit qu'il lise un truc et il le retient. Et notamment, il a été nommé ensuite pour polémiquer avec les théologiens protestants. Et il les a écrasés. C'est-à-dire qu'il connaissait à la fois la théologie protestante et la théologie catholique et tous les pères de l'Église sur le bout des doigts. Et les protestants, pensant que, comme Calvin avait tout écrasé en son temps, qu'ils allaient gagner facilement... les polémiques, ils y sont allés sans trop se préparer, ils sont tombés sur Jacques-David Duperron, mais qui les a vraiment étalés complètement. Et en récompense, il a fini cardinal, hein, le cardinal Duperron. Et les protestants, évidemment, le détestaient. Mais il a une œuvre poétique relativement intéressante, et il a fait un poème sur l'inconstance. Et je trouve ça assez intéressant de la part de quelqu'un qui est passé sans trop de problèmes. Voilà. Et pour ceux qui ont vu le film « Ridicule », qui est un film qui se passe, je crois, au XVIIIe siècle. À un moment donné, le personnage interprété par Giraudeau, qui joue le rôle d'un abbé, prouve l'existence de Dieu avec certains arguments. Donc tout le monde applaudit et il continue sur sa lancée et il dit avec les mêmes arguments, je vais vous prouver que Dieu n'existe pas. Et il continue et là, l'ambiance devient glaciale parce que ça ne se fait pas à l'époque. Et donc il perd sa place à la cour. Et en fait, cet épisode qui est placé au XVIIIe siècle par Patrice Lecomte dans son film Ridicule, en fait, c'est Jacques-David Duperron, relativement jeune, qui l'a fait et qui a dû se partir en exil pendant un certain temps parce que ça ne se fait pas. On ne prouve pas l'inexistence de Dieu à l'époque, ce n'est pas possible. On peut essayer de prouver l'existence de Dieu, mais pas l'inexistence. Et donc, voilà. Bref, théologien considérable, passé à l'ennemi, si vous me passez l'expression, et qui a eu un rôle important. Alors, il y a d'autres poètes relativement importants qui sont un peu en dessous du Bartas et d'Agrippa d'Aubigné, mais il faut quand même citer André Mage de Fief-Mélin, qui est un poète relativement peu connu, tout simplement parce que son ouvrage n'a pas été édité récemment, il n'y a pas d'édition moderne, et il faut aller à la bibliothèque du protestantisme rue des Saints-Pères. Ils ont un exemplaire qu'il faut consulter avec des gants blancs, etc. Eux, ils l'ont, mais il n'a pas été scanné, quoi. Donc voilà. Et c'est un très, très grand poète protestant qui a habité sur l'île d'Oléron et voilà, qu'il faut noter si on s'intéresse à ça. Dans l'anthologie, j'en ai publié quelques textes. Donc... guerre de religion, c'est quand même assez tendu, on va dire. Et je vais vous lire deux textes assez courts. C'est des extraits toujours, hein. Je ne vais pas vous lire tous les tragiques, on y serait encore la semaine prochaine. Un extrait de Guillaume du Bartas, donc, c'est le premier jour de la semaine, donc c'est la création du monde. Et c'est un texte apocalyptique, il parle, dès le premier jour de la semaine de la création du monde, il parle du retour du Christ. Donc... C'est alors, ô Dieu, que ton fils cher, qui semble être affublé d'une fragile chair, descendra glorieux des voûtes étoilées. À ses flancs voleront mille bandes ailées, et son char triomphal d'éclairs environné, par amour et justice, en bas sera traîné. Ceux qu'un marbre orgueilleux presse dessous sa lame, donc ceux qui sont morts, ceux que l'onde engloutit, ceux que la rouge flamme éparpille par l'air, ceux qui n'ont pour tombeau que les ventres gloutons des loups ou des corbeaux, éveillés, reprendront comme par inventaire et leur chair et leurs os, auront, c'est-à-dire entendront, devant la chair du Dieu qui, souverain, juge en dernier ressort, l'arrêt définitif de salut ou de mort. Là, vous avez un petit échantillon de poésie du XVIe siècle qui s'est beaucoup intéressé à la fois aux histoires de création, mais aussi beaucoup aux histoires d'Apocalypse. Et parce que l'ambiance, vous le savez, dans les guerres de religion est très sanglante. Donc forcément, ça déteint d'une façon ou d'une autre sur la poésie. Même un diplomate comme Du Bartas, il y a des passages qui sont des passages de type apocalyptique. Et enfin, juste pour rappel, parce que je pense que vous connaissez tous ce texte, c'est Agrippa d'Aubigné sur l'enfer. Donc la thèse d'Agrippa d'Aubigné, c'est que l'enfer, en fait, c'est qu'on ne peut pas mourir et qu'on aimerait bien mourir parce qu'on est torturé, mais on ne peut pas. Et donc, la mort morte ne peut vous tuer, vous saisir. Voulez-vous du poison ? En vain cet artifice. Vous vous précipitez ? En vain le précipice. Courez au feu brûlé, le feu vous gèlera. Noyez-vous, l'eau est feu, l'eau vous embrasera. La peste n'aura plus de vous miséricorde. Étranglez-vous, en vain vous tordez une corde. Criez après l'enfer, de l'enfer il ne sort que l'éternelle soif de l'impossible mort. Voilà, vous avez 9500 phrase de ce type dans les tragiques, et voilà. Les guerres de religion ont fini par finir, ça a duré très très longtemps, donc avec Henri IV, il y a l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance, qui permet aux protestants, dans une certaine mesure, de pouvoir continuer à adorer leur Dieu selon les rites protestants. Alors c'est très restrictif, mais c'est possible. Et il y a on change complètement d'ambiance et on change complètement de période. C'est-à-dire autant avant c'était très très guerrier et la poésie était très très guerrière, autant là on passe à une autre période où on pourrait dire qu'on évite les sujets qui fâchent. C'est un peu le et ça va se voir dans la poésie. Alors le plus grand poète de cette période protestant, c'est le pasteur Laurent Drelincourt, qui est le fils de Charles Drelincourt, on les confond parfois. Charles Drelincourt était l'un des pasteurs les plus connus de la paroisse de Charenton, qui était la paroisse parisienne protestante qui a eu le droit de continuer ses activités. Et son fils a été pasteur à La Rochelle et à Niort. Et donc il a écrit un recueil de poèmes qui sont des sonnets, dont j'ai une édition ici assez rare. Et il y a 160 sonnets, c'est divisé en 4 parties, et c'est des sonnets qui reprennent la matière de ses prédications. C'est-à-dire qu'il faisait une prédication, donc à l'époque, les prédications, ça peut facilement faire une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà. Ce n'est pas les 10 minutes, 12 minutes d'aujourd'hui, enfin je parle pour mon église. C'est une prédication assez longue, et il s'est astreint à ce que cette prédication puisse tenir dans un sonnet. Voilà. Et c'est divisé en 4. La deuxième partie, c'est des sonnets sur l'Ancien Testament. La troisième partie, c'est des sonnets sur le Nouveau Testament. J'en lirai 2 après. Et c'est une œuvre, c'est ce qu'on appelle la poésie précieuse. Donc le plus simple, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, il faut imaginer qu'on est passé d'une période où c'était le glaive et l'épée à une période où c'est le mouchoir en dentelle. Vous verrez, ça s'entend dans la... Voilà. Donc il ne faut surtout pas aborder les sujets qui fâchent. Et par exemple, Laurent Drelincourt, qui est pasteur, qui est un pasteur calviniste, il y a des notes pour chacun de ses poèmes, des notes de bas de page, et toutes les notes renvoient au père de l'Église, c'est-à-dire à une période où il n'y a ni protestant ni catholique. Il n'y a pas une note qui concernerait Calvin ou un théologien de l'époque. Toutes les notes c'est Saint Bernard, etc., etc. C'est, voilà. Et ça vous montre à quel point ces sonnets, qui sont des sonnets protestants, incontestablement, déjà le titre, c'est « Sonnets chrétiens », c'est la première chose, et il n'y a pas une référence au protestantisme explicite. Il y a plein de références implicites, mais il n'y a pas de référence explicite, parce qu'on est à cette période où on décide qu'on n'aborde plus les sujets qui fâchent. C'est quasiment écrit tel quel dans l'édit de Nantes. Ce qui est intéressant pour cette période, c'est que les poètes se professionnalisent. C'est-à-dire ça devient un boulot, un full-time job. Et donc, pour être professionnel, comme ça se vend très peu, il faut un protecteur. Et au XVIIe siècle, le protecteur, il est catholique, forcément. Donc, il y a beaucoup de poètes protestants qui vont se convertir. Très peu par conviction, beaucoup pour simplement pouvoir continuer à être poète. Donc voilà. Et puis certains ne vont pas se convertir. Mais parmi ceux qui se convertissent, il y a quelques cas assez intéressants. Il y a notamment Saint Amand. Alors Saint Amand est un poète relativement badin, qui fait par exemple un poème sur le melon ou sur la nourriture. Voilà. Son père est protestant, il est protestant et il va se convertir, mais il va avoir la délicatesse de se convertir une fois que son père meurt. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que son père voie, son père était très protestant, il ne voulait pas que son père voie son fils se convertir au catholicisme. Donc il va attendre, voilà. Et il va créer une œuvre qui est une œuvre, comment dire, d'inspiration protestante, puisque ça touche au texte biblique. Cette œuvre s'appelle Moïse sauvé. Sauvé des eaux, quoi. Moïse sauvé. Et c'est une œuvre complètement chaotique qui a absolument sidéré tous les poètes de l'époque. Boileau, par exemple, après dira quasiment textuellement qu'il était complètement cinglé. C'est une œuvre chaotique, ça mélange plein de trucs, mais c'est une œuvre extrêmement ambitieuse. C'est aussi ambitieux que les tragiques et que c'est juste raté, quoi. Si c'était un film, on dirait c'est une grande œuvre malade. On dit ça parfois pour les films, on dit c'est un grand film malade. Ben là, c'est une grande œuvre malade, mais c'est assez intéressant à regarder. J'en ai publié quelques extraits. C'est le texte biblique qui est repris en poésie, et c'est les protestants qui avaient quasiment l'exclusivité de ce genre littéraire. Et il s'était converti, mais en fait, culturellement, on peut dire qu'il était resté protestant. Et le deuxième exemple de personnalité qui se convertit, alors lui, il a été vraiment persécuté physiquement, c'est Théophile de Viau. Théophile de Viau est un poète protestant, mais c'est un poète libertin aussi. Il était sans doute homosexuel, il était protestant, enfin, il avait vraiment beaucoup de trucs pour déplaire à la société de l'époque. Et il y a un jésuite, le père Garas, qui voulait vraiment sa peau et qui l'a quasiment eu, c'est-à-dire que Théophile de Viau a fait de la prison, et ils l'ont mis dans le cachot de Ravaillac. Voilà, c'était un signe fort. Et pour sortir, bah, il s'est converti au catholicisme, et il est mort relativement rapidement des suites de sa captivité. Il a vraiment été, alors lui, il a été persécuté, et c'est sans doute le plus grand poète du XVIIe siècle. Et il a un poème très long que j'ai publié où il parle de son enfance protestante et où il parle aussi de son frère. Alors son frère est un capitaine huguenot qui est un militaire protestant. Et il invoque son frère et il se rappelle du bon temps qu'était leur jeunesse avant tous les problèmes qu'il a eus. Et c'est un texte magnifique, c'est assez long, mais c'est très très beau, où il demande, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais où il demande à vivre après qu'on l'ait tant fait mourir, puisqu'il a été persécuté. Donc c'est un des très grands poèmes de la poésie française, Théophile de Viau. Voilà. Et puis, il y a quelques protestants qui ne se sont pas convertis. L'exemple le plus intéressant, sans doute, c'est Valentin Conrart. Alors, Valentin Conrart est un auteur qui est passé à la postérité sans avoir jamais rien publié, en fait. Et tout le monde s'est moqué de lui, notamment Boileau, qui disait, enfin, il y a un vers assez célèbre, où il disait « J'imite de Conrart le silence prudent ». Conrart était protestant, et c'était quasiment le ministre de la Culture de Louis XIII. Donc il avait un poste assez élevé, mais il a refusé de se convertir, malgré les demandes pressantes de l'entourage du roi. Il est resté protestant, et c'est lui qui a créé en fait l'Académie française, puisqu'il y avait des réunions d'écrivains chez lui, et Richelieu, à un moment donné, a décidé de formaliser la chose, et c'est devenu... voilà. Et ce qu'il a fait quand même, mais c'est sorti à titre posthume, il a révisé le psautier huguenot de Clément Marot et de Théodore de Bèze. Alors pour ceux qui connaissent un peu le répertoire... Il y a ce psaume qui est le psaume 42, avec quand on l'a entendu une fois, on s'en souvient, « Comme un cerf altérébrame ». Alors ça, c'est à ce moment-là que la formule est sortie. C'est la révision au moment où Valentin Conrart s'occupe de ça, puisqu'avant, c'était une formule de Théodore de Bèze qui était beaucoup plus XVIe siècle. Il est question d'une biche qui ré... Voilà, c'était pas très... Voilà, comme un cerf altéré brame. Il y a cette révision du psautier. On abandonne aussi la langue du XVIe siècle, puisqu'on est au XVIIe siècle. Il faut quelque chose d'un peu plus doux et de moins rugueux. Donc Conrart a fait ça. Et puis, il y a des poètes qui sont aujourd'hui complètement tombés dans l'oubli, comme Jean Augier de Gombeau, qui a fait les sonnets religieux. Et voilà. Il y a des poètes protestants qui se sont convertis. Et on était assez taquins à l'époque, puisqu'il y en a un, Charles de Sainte-Maur, marquis de Montausier, qui a été chargé de la caisse qui permettait d'acheter les conversions. C'est-à-dire que si on se convertit au catholicisme, dans certains milieux, on touchait de l'argent. Et c'est un ancien protestant qui était chargé de la gestion de cette caisse de conversion. Voilà, c'est Montausier. Donc lui, c'est vraiment un traître. Il n'aurait pas été obligé de faire ça. Et lui, il l'a vraiment fait. Donc je vais vous lire deux sonnets de Laurent de Relincourt. Donc Laurent de Relincourt a repris tout le Nouveau Testament et a mis ça sous forme de sonnet. Et donc le sonnet sur la crucifixion. C'est sur la croix de notre Seigneur. C'est en deux parties. Premièrement, sa cause. Deuxièmement, ses effets. Prodige incomparable, étrange conjoncture, quoi, le juste, le saint, le puissant roi des rois, est comme un criminel attaché sur le bois, et l'on verra mourir le dieu de la nature. Hélas, je suis l'auteur des tourments qu'il endure. Pleurez, mes yeux, pleurez à l'aspect de sa croix, car par moi, grand Jésus, grand Jésus, que réduit aux abois, tu souffres cette mort si honteuse et si dure. Oui, c'est-à-dire, écoute, pourquoi détester les Juifs et les Romains ? Je dois chercher en moi tes bourreaux inhumains pour mieux juger du prix de tes bontés divines. Mes péchés, vrais bourreaux, ont versé tout ton sang, t'ont fait boire le fiel, t'ont couronné d'épines, t'ont cloué pieds et mains et t'ont percé le flanc. Et le deuxième sonnet qui suit immédiatement. Qui l'eût jamais pensé, qui l'eût jamais pu croire, l'adorable Jésus meurtri, percé de clous, le soleil éternel dans l'ombre la plus noire, le propre Fils de Dieu, l'objet de son courroux. Je vois dans cette mort d'immortelle mémoire l'innocent condamné, le criminel absous. La guerre y fait la paix, la honte y fait la gloire, et la peine d'un seul est le salut de tous. Ange saint, adorez ses grandeurs ineffables. Et vous, aveugles juifs, vous, païens détestables, cessez votre blasphème insolent et moqueur. Jésus est le Dieu fort dans sa faiblesse extrême. Sa croix est l'ornement et le char d'un vainqueur, et sa mort est enfin la mort de la mort même. Voilà, 160 sonnets comme ça. Et quand ensuite on va passer à la révocation de l'édit de Nantes, aux persécutions, les protestants français qui vont être privés de leur pasteur, ils vont avoir le psautier de Clément Marot et Théodore de Bèze et les sonnets de Drelincourt comme ouvrage au quotidien, puisqu'ils n'auront plus leur pasteur. Et la foi protestante sous la persécution tient sur ces deux ouvrages. Donc vous savez que Louis XIV a révoqué l'édit irrévocable de son grand-père, donc il a sans doute été mal conseillé. Ça a été très compliqué, je pense que la plupart d'entre vous connaissez un peu cette période. Donc c'est une période où les pasteurs doivent quitter le royaume de France, ils ont une semaine pour faire leur bagage, où les temples sont brûlés et où les protestants doivent se convertir au catholicisme. Alors évidemment ça a été assez compliqué, donc je ne vais pas vous faire l'injure ici de vous rappeler la glorieuse épopée des Camisards. Je crois qu'on est à peu près dans le pays où ça s'est passé, à peu près. Donc, il n'y a plus de poètes protestants au sens poète de cour. Ce qu'il y a simplement, il y a des gens du peuple qui ont décidé de raconter les persécutions et de le raconter sous forme de complaintes. C'est-à-dire, ce sont des textes rimés qui se chantent et qui se chantent sur la seule musique que les protestants connaissent, c'est la musique des psaumes. Alors, je vais vous lire l'extrait d'un texte. Alors, en général, c'est des complaintes, c'est très, très long. Donc, il y a un pasteur qui est revenu, alors que c'est interdit, et qui a été exécuté. Ce pasteur s'appelle François Bénézé, c'est un pasteur du désert. en 1752. Donc il y a une complainte qui a été écrite sur la mort de François Bénézet. Je ne vais pas vous le chanter, c'est sur l'air du psaume 9, pour ceux qui connaissent. Et je vais vous lire la fin de cette complainte. Donc François Bénézet a été arrêté et est destiné à être exécuté, comme c'était le cas des pasteurs qui sont revenus de Suisse, par exemple, pour s'occuper des communautés protestantes en France sous la révocation de l'édit de Nantes. On l'emmena, lié et garrotté, à la prison pour assouvir leur rage. Ses cœurs ingrats l'ont fait interroger pour ébranler s'il pouvait son courage. Il répondit à tous ces furieux, avec ferveur et d'un cœur plein de zèle, que son grand Dieu lui a ouvert les yeux, qu'il le suivra jusqu'où sa voix l'appelle. Il fut conduit par 400 furieux qui l'insultaient avec une humeur noire, jusqu'à l'endroit où grand nombre d'élus y ont souffert d'éternelle mémoire. En arrivant près de Montpellier, on vit en pleurs la troupe des fidèles. Les yeux au ciel, il a voulu chanter un hymne saint jusqu'à la citadelle. On le serra dans la noire prison en ordonnant d'y faire double garde. On fit sortir de l'enfer un tison pour le troubler. Le Seigneur fut sa garde. Pendant 2 mois, il fut persécuté. Par des douleurs, on voulut le surprendre. Il répondit avec humilité, les convaincant, on se lassait d'apprendre. Le jour précis qu'on avait ordonné, on le jugea, on lui lut sa sentence. D'un air serein, il voulut l'écouter, se reposant dessus la providence. Il pria Dieu de pouvoir accomplir ce traitement où ce grand Dieu l'appelle pour être mis au rang de ses martyrs et pour jouir de la gloire immortelle. On le conduit tout droit près du poteau. Auprès de lui étaient 2 satellites qui lui parlaient. Mais lui, les yeux en haut, chantait toujours les hymnes du psalmiste. En cet instant, il se mit à genoux en priant Dieu de lui être propice et qu'il lui fût et favorable et doux, qu'il lui offrait son cœur en sacrifice. Il pardonna jusqu'à l'exécuteur, et en mourant, il chantait un cantique d'Alléluia à son divin Sauveur, en l'exaltant d'une ardeur héroïque. Ainsi mourut notre prédicateur, ayant fini ici-bas sa carrière, il fut reçu par Jésus son Sauveur dans le Très-Haut, auprès de Dieu le Père. Des complaintes de ce type, il y en a eu énormément. On en trouve dans toutes les régions des Cévennes. Et c'est la caractéristique principale, c'est que la poésie, on va dire, qui concerne les protestants, passe donc de gens dont c'est le métier à des gens qui le font par nécessité pour pouvoir exprimer et raconter les persécutions qu'ils ont vécues. Donc effectivement, techniquement, on baisse de plusieurs degrés, mais par contre, par rapport à la poésie du XVIIe siècle, à part Drolincourt, les poètes protestants qui font des sonnets, c'est pas top top quoi. Là, on a quelque chose qui témoigne d'une réalité, qui était une réalité dramatique, des gens qui ont été persécutés et dont les pasteurs, ceux qui sont restés en France, ceux qui sont revenus en France, ont été exécutés. Et donc, on voit bien dans le texte qu'ils chantent un psaume. Donc, on voit l'influence du psautier huguenot de Marot et de Bèze, qui était connu. Et quand les gens mouraient, ils chantaient un psaume de ce recueil de cantiques, et quand les camisards, par exemple, petite parenthèse, allaient se battre contre les troupes de Louis XIV, ça commençait toujours comme ça, on mettait un genou à terre et on chantait le psaume des batailles, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement, etc. etc. Et quand ils attaquaient dans les petites vallées, sur le mode de la guérilla, ils attaquaient les troupes royales du haut des vallées, ils chantaient un psaume. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais il semblerait qu'il y ait de l'écho. Et donc, le psaume était chanté par, je ne sais pas, une quinzaine de camisards. Et par le jeu de l'écho, les troupes royales avaient l'impression qu'ils étaient entourés d'une centaine de guerriers. Ça les insécurisait complètement. En plus, ils étaient à cheval, ce qui n'est pas super pratique. Et donc, ils ont connu un certain nombre de défaites comme ça, en entendant donc, les psaumes. Et là, en l'occurrence, le psaume 68, c'est un psaume de Théodore de Bèze. Puisque les camisards ont préféré les psaumes de Théodore de Bèze qui sont plus, comment dire, qui sont moins littéraires, plus accessibles et plus guerriers, j'ose à peine dire virils, que les psaumes de Marot. Donc ça, vous voyez que ça a une influence considérable au XVIe quand ça a été écrit, au XVIIe et jusqu'au XVIIIe lors de la persécution. C'est pratiquement le seul lien théologique, c'est les psaumes de Marot et en second lieu les poèmes de Drolincourt. la foi protestante de vos ancêtres, parce que moi je suis de l'Est, donc c'était autre chose à cet endroit-là, mais repose sur ses écrits poétiques. Donc tout ça pour dire que la poésie, vous voyez, a eu un rôle extrêmement important. On n'en est pas toujours conscient, mais c'est quelque chose qui a soutenu la foi de nos aïeux, mais vraiment. Voilà. Donc au XVIIIe, c'est une poésie populaire. Alors on peut signaler quand même simplement que Voltaire, qui se considérait comme le plus grand poète de son temps, Voltaire est très doué, mais pas obligatoirement en poésie. Il a écrit une grande épopée qui s'appelle La Henriade, qui est l'histoire d'Henri IV. Et il y a un récit versifié sur la Saint-Barthélemy qu'on peut lire avec intérêt. Et aussi, c'est pas de la poésie, c'est le récit des aventures de Jean Cavalier, qui est l'un des camisards les plus importants. Ce récit est absolument fantastique. C'est dans le siècle de Louis XIV. Alors ça, je vous conseille de le lire. Le récit sur Jean Cavalier, c'est quelque chose. C'est un grand morceau de littérature. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est incroyable. Bref, on continue. Donc, la persécution a duré un siècle. Ensuite, on s'est rendu compte que malgré la persécution, il restait des protestants et qu'ils ne pouvaient pas être inscrits au registre et que donc on avait une population complètement incontrôlée et incontrôlable. Là, on est sous Louis XVI. Et donc, les protestants, petit à petit, sont de nouveau rentrés dans le jeu. Ils ont été moins persécutés. Et la Révolution française va les rétablir dans leurs droits. Donc, le XIXe siècle, c'est le retour des protestants, retour officiel. Ils n'étaient pas tous partis, mais le retour officiel des protestants en France. Et donc, ils ont d'autres trucs à faire que de la poésie. Et on n'a pas le... C'est plus une urgence. On n'est plus persécuté, il faut qu'on construise des églises, il faut qu'on fasse de la théologie. Et le XIXe siècle est un grand siècle de poésie, mais pas pour les protestants. Donc il y a deux auteurs importants, quand même. Le premier, c'est Napoléon Perrat, qui est un pasteur, qui était pasteur à Saint-Germain-en-Laye, je crois, quasiment toute sa vie, qui est originaire de l'Ariège et qui est passé ici dans les Cévennes, je ne sais pas combien de temps, et qui a été très marqué par l'histoire des Camisards. Donc c'est à la fois un historien, et à la fois un poète. Donc il y a des poèmes sur les Camisards. Je vais vous en lire un tout à l'heure, parce que c'est des poèmes très longs. Je vais vous lire un extrait tout à l'heure. Et puis il y a Luisa Siffer. Alors Luisa Siffer est originaire d'une grande famille des Cévennes, les Villas ou Villas ou Villas, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Et c'est une jeune femme très fragile, très frêle, qui est morte relativement jeune et qui a fait une poésie qui plaisait beaucoup à Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud l'aimait beaucoup et il l'a cité. Il a dit, voilà, ces poésies de Luisa Siffer, c'est super. Et c'est des poèmes très, très longs. Je vais vous en lire un extrait aussi tout à l'heure. Donc, il y a ces deux noms qui représentent un peu la poésie protestante, mais qui sont passés au second plan sur l'histoire générale de la poésie, parce que le XIXe siècle, c'est quand même Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Et les deux noms cités sont intéressants du point de vue du protestantisme. Mais dans l'histoire de la poésie, c'est... pour reprendre une métaphore sportive, c'est la deuxième division. Mais nous, on les lit évidemment avec intérêt. Par contre, ce qui est passionnant, c'est d'essayer de trouver des traces de protestantisme ou de l'histoire du protestantisme chez des auteurs non protestants. Alors ça, c'est un travail, je me suis livré à ça, par exemple chez Victor Hugo. En quoi Victor Hugo a-t-il cité les protestants? Ça, c'est un travail passionnant. On a ça chez Baudelaire. Baudelaire a écrit un quatrain sur Rembrandt, et Rembrandt est on ne peut plus protestant, c'est un très beau quatrain, voilà. Donc le sport, si vous voulez, quand on s'intéresse au XIXe siècle, une fois qu'on a lu Napoléon Perrat et Luisa Siffer, c'est d'essayer de chercher des traces de protestantisme chez les auteurs non protestants. Par exemple, Alfred de Vigny a fait un récit, un poème sur la Saint-Barthélemy, et c'est assez curieux, parce qu'il prend, il a un modèle féminin, et le modèle féminin dans son poème est catholique, et il s'est inspiré d'une ultra-protestante qui s'appelait Catherine de Parthenay. Donc c'est assez bizarre, il y a des jeux comme ça, c'est assez particulier. Enfin, voilà. Donc ça, le sport, c'est ça. Mais je ne vais pas vous lire des poètes non-protestants, parce qu'on n'a pas le temps. Je ne sais pas du tout où j'en suis, d'ailleurs, au niveau du timing. J'ai encore un peu de temps ou pas?
On commence
5 minutes, d'accord. Donc je vais vous lire, parce qu'on est dans les Cévennes, je vais vous lire un texte de Napoléon Perrat. Alors je ne suis pas sûr de bien prononcer tous les noms, parce que je ne suis pas de la région, mais vous verrez, c'est assez lyrique. C'est sur les Cévennes. Ô Lozère orageuse et sombre, géante des forêts qui te couronne d'ombre, et de neige et de fleurs sous un soleil de feu. Mer aux flancs nuageux, tu pends à tes mamelles deux fleuves aux urnes jumelles, le Tarn fauve et bruyant, le Lot sonore et bleu. Mais, ô Sinaï des Cévennes, ta cime épanche encore de plus fécondes veines. Lune un fleuve de foi dont la source est au ciel, Jourdain mystérieux dont les tribus bibliques habitent les bords symboliques où s'abreuvent sans fin les bercails d'Israël. L'autre une cascade de larmes et de sang et d'amour et de gloire et d'alarme qui pleut du cœur des saints sous le glaive des rois. Et quand le Christ parcourt tes cimes, donc on parle des Cévennes, quand le Christ parcourt tes cimes qu'il révère, voici, dit-il, le noir calvaire de mes saints suspendus 300 ans à ma croix. Oh, qui dira cette épopée, les héros de la croix, les martyrs de l'épée, et donc il va citer les Camisards, le vieux quart d'heure Séguio, leur monarque, à qui Dieu, pour monter triomphant, prêta le char d'Élie, char d'orage où l'archange lit l'espérance et la foi, ses cavales de feu. Tous les soirs, l'ombre du prophète, du bougesse paternel, hante le sombre fête. Là, farouche, il s'assied sous le dé des trois faux, et quand soleil des morts, le disque de la lune blanchit la vaste forêt brune, il murmure trois fois, martyr des échafauds. Et soudain, de nouveau les Camisards, Roland le stoïque, Castanet l'éloquent, Cavalier l'héroïque, Johannis, Catina, Abraham, Salomon descendent, peuple immense et foule triomphante, que pour le ciel sans cesse enfante la croix et le bûcher où rugit le démon, etc. etc. Oui, c'est super lyrique, et c'est la mémoire des Camisards au moment où le protestantisme reprend pied dans la société française. Et je vais encore continuer très brièvement sur le XXe siècle. Alors, autant le XIXe siècle, on cherchait des traces de protestantisme chez des auteurs non protestants. Alors, le sport au XXe siècle, c'est de trouver des traces de protestantisme chez les auteurs protestants. Oui, ça fait bizarre d'entendre ça, mais en l'occurrence, c'est comme ça. Donc, quand on s'intéresse aux protestants en poésie de langue française, on doit s'intéresser aux Suisses. Alors, autant les Suisses n'avaient rien fait jusqu'au début du XXe siècle, autant à partir du XXe siècle, c'est eux qui sont tout en haut de la pile. Donc, je vais citer simplement pour mémoire Charles-Ferdinand Ramu, Blaise Sandrard, Edmond-Henri Crisinel, Gustave Roux, Marc Hagelinger, Philippe Jacotet et Jacques Chessé, et qui sont des auteurs protestants suisses, bon, même si Jacotet vit en France depuis très longtemps. Et on retrouve des traces de leur culture protestante, en l'occurrence du catéchisme, dans certains de leurs textes, pas dans tous. C'est-à-dire qu'aucun n'accepterait d'être considéré comme un poète protestant, ce qu'ils ne sont pas, mais il y a des traces, et ces traces sont passionnantes. La façon, par exemple, dont Philippe Jacotet raconte l'Évangile, c'est un truc qui fait 10 lignes, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il ne serait pas protestant, il ne l'aurait pas fait comme ça. Mais c'est un petit morceau d'une œuvre considérable, on trouve des traces. Francis Ponge, par exemple, qui je crois est originaire de Nîmes, j'ai lu les 2 volumes de la Pléiade, donc ça doit faire je ne sais pas combien de pages, beaucoup, et j'ai trouvé un texte qu'on pourrait accrocher à ses origines protestantes. Voilà. Mais les textes qu'on a, du coup, c'est des textes super intéressants, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison, et donc on a quelque chose qui parle des protestants, d'un point de vue de quelqu'un qui est d'origine protestante, mais pour qui ce n'est pas le quotidien. Et donc c'est super, super intéressant. Et puis, il y a, donc chez les Français, il y a Francis Ponge, il y a André-Pierre de Mandiargue, il y a Jean-Paul d'Adelsen, il y a Bernard Heitzig, il y a Jean-Michel Maupois, etc., etc. Donc, ils sont tous protestants, ils ont tous fait leur confirmation, et ils ont tous produit une œuvre poétique qui, parfois, parle du protestantisme. Et puis, il y a bien sûr les pasteurs. Donc, il y a pas mal de pasteurs qui ont fait de la poésie. Alors, c'est de la poésie plutôt liturgique. Et puis, il y a les 2 grands théologiens protestants du XXe siècle. Donc là, je parle de mon point de vue. En l'occurrence, Jacques Ellul et Gabriel Vahagnan, qui, Ellul, après sa mort, sa famille a publié 2 recueils de poésie de Jacques Ellul, ce qui est assez surprenant, on ne le connaissait pas comme ça. Et puis Gabriel Vahagnan, qui est un théologien qui est né à Marseille, qui est d'origine arménienne, et dont toute l'œuvre théologique, c'est un théologien au sens le plus classique du terme, pourrait relever de la poésie. Alors si j'ai encore 3 minutes, tu m'accordes 3 minutes ?
Je t'accorde 3 minutes. Voilà.
Alors, le grand ouvrage que tout protestant devrait avoir dans sa bibliothèque, c'est un ouvrage d'un auteur suisse qui s'appelle Marc Hagelinger, auteur de langue française, qui est un spécialiste, est un professeur de français. C'est un spécialiste de Baudelaire et il a écrit plein d'ouvrages poétiques. Et en 1957, il y a un ouvrage qui s'appelle, je crois, « Terre vêtue de soleil », où ça parle de l'Évangile. C'est une sorte de paraphrase hyper dense de la passion du Christ. Et c'est hallucinant, enfin, on n'attendait pas ça de sa part. C'est hyper rigoureux et c'est très très puissant. Alors, je ne sais pas si ça se lit, je vais vous en lire un extrait. Je pense que ça se lit comme ça, je ne suis pas sûr que ça se dise. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est le grand ouvrage de poésie protestante du XXe siècle. Il n'y a pas supérieur. Et c'est totalement inattendu, c'est un accident complet. C'est-à-dire qu'il a écrit des trucs pas mal, mais ça, c'est un ovni. Voilà. Donc, on est reconnaissant que ça puisse exister. Et je conseille à tout le monde d'essayer de le trouver. Alors, il fait le récit de la Passion. C'est un extrait que je vais vous lire. Selon saint Jean. Voilà. Ô Dieu, visage immaculé, dans le temple de l'invisible, nulle nuit ne peut dissimuler le tremblement premier de ta clarté. Jésus, le Verbe de lumière et le sceau de la présence, devient parmi l'espace ombreux le corps de la transparence. L'Esprit illumine les eaux comme une parole prophétique qui baignerait de sa flamme l'air des sables desséchés. Je vous apporte, dit Jésus, la gloire et les promesses de l'Esprit, présence sous l'espèce de l'oiseau, donc la colombe, hein, présence sous l'espèce de l'oiseau qui descend dans le gîte des flots. Le don nouveau de la naissance, par l'accord de l'eau et du sang, par la voix chaude du vent et la flamme insinuée en vous. La parole que profère la colombe est le signe inoublié de la vérité, ainsi que l'empreinte rituelle de l'eau et que le sang séché sur la croix. Préparez les semailles de l'esprit, présageant sans cesse mon retour, je serai le moissonneur qui parcourt les champs fécondés d'espérance. Etc., etc., etc. Il y a tout un ouvrage comme ça. Donc, ça se trouve, l'ouvrage lui-même, on doit pouvoir l'acheter sur Internet, mais Hegel Dinger a eu ses œuvres publiées dans un seul recueil, qui s'appelle Poème 1942-1987, je crois, qui se trouve relativement facilement, enfin, ne me regarde pas comme ça, je pense que ça va pouvoir se trouver encore facilement, je l'ai. Et donc, il y a cet ouvrage de 1957 qui est une sorte d'ovni littéraire protestant, biblique. Il n'y a pas d'équivalent dans le domaine francophone au XXe siècle. Voilà.
Merci. Merci Philippe pour cette plongée dans la poésie protestante, avec deux choses qui me surprennent en t'écoutant, cette familiarité qu'ont eu les protestants avec la poésie au XVIIIe siècle, car c'est quand même malgré tout étonnant de voir ce protestantisme se maintenir à partir de deux livres fondamentaux que sont le Psautier et les sonnets de Laurent Drelincourt. C'est son père d'ailleurs, je crois, Charles Drelincourt, qui a le record de la prédication la plus longue à l'époque moderne, je pense aussi contemporaine, 2h45 de prédication, et les gens ont continué d'écouter malgré tout. Bref, ça c'est très étonnant, puisque cette familiarité, on l'a perdue aujourd'hui avec la poésie, hein, à un moment où tu le disais justement, et ça c'est aussi étonnant, les poètes protestants au XXe siècle, cachent leur protestantisme, en tout cas ils le cachent peut-être pas volontairement, mais ce protestantisme-là est beaucoup moins flagrant dans leurs vers qu'il l'était évidemment au XVIIe siècle. J'encourage quand même ceux qui ont écouté ce soir à venir découvrir les très beaux textes de Valentin Coenraad, que je trouve tout à fait remarquable, qui était, tu l'as dit, secrétaire de l'Académie française, et qui est un des fondateurs de l'Académie française au XVIIe siècle. Voilà, je suppose que vous avez des questions ou des remarques, donc je vous laisse maintenant intervenir. Il y a un micro ici. Si quelqu'un veut bien faire passer le micro pour ceux qui ont des questions.
ne savais pas que François de Malherbe était protestant.
Alors, Malherbe, son père était protestant, et Malherbe lui-même était mort de honte à l'idée que son père soit protestant, et dès qu'il a pu, il est parti. Donc Malherbe n'a jamais été protestant, mais il est de famille protestante. Son père était protestant, et un protestant, voilà. Donc Malherbe, non, n'était pas protestant, et il ne l'aurait jamais assumé. C'est au contraire, lui, c'était une horreur pour lui, le protestantisme.
Mais pour quelle raison, vous savez ?
Ce qu'on reproche aux protestants, c'est que c'est le désordre. Et vous savez que Malherbe est un poète très, très ordonné. Ses écrits sont très classiques. Voilà. Donc je pense que ça a refroidi pas mal de monde. C'est le fait que c'est un peu l'apparition comme ça spontanée, on pourrait presque dire prophétique. Un type se lève et dit « Dieu m'a parlé ». Et voilà. Donc ça passe pas du tout. Et puis, le roi de France, enfin, le protestantisme n'a jamais pris en France, vraiment, comme ça a pu prendre en Allemagne du Nord. Et donc, c'était contre l'ordre établi. Être protestant, c'était être contre l'ordre établi. C'est pas dans la nature des choses, en France, d'être protestant. Et d'ailleurs, Louis XIV a voulu mettre fin à la plaisanterie en disant, mais il n'y a aucune raison, quoi. En la France, je suis catholique, la France est catholique, a toujours été catholique, et ça continuera toujours comme ça. L'édit de Nantes a été une petite parenthèse, et encore, c'est un édit de tolérance. On ne peut pas dire que le protestantisme ait été particulièrement mis en avant, quoi. Ils avaient le droit, en dehors de la ville, etc. etc. Et, voilà.
C'est ça, oui. Pourtant, on n'a pas l'impression que les protestants aient plaisanté avec ça, justement. Hein. Ils n'étaient pas anti-français.
Alors, non seulement ils n'étaient pas anti-français, mais ils ont espéré jusqu'au bout que le roi de France allait se rendre compte que les protestants étaient des sujets fidèles. Ça se voit dans les poèmes juste avant la révocation de l'édit de Nantes. Il y a les premières dragonnades qui commencent dans le Poitou. Et dans les poèmes protestants de l'époque, on feint de croire que le roi n'est pas au courant. Parce que nous sommes de bons sujets. Et nous ne sommes pas des révolutionnaires. Et donc, ils ont pas compris. Ça a été une douleur terrible pour eux. Je veux dire, ce n'est pas des gilets jaunes, les protestants, du tout, à l'époque. Donc ils sont là, ce sont de bons sujets, mais pour des raisons idéologiques, Louis XIV a décidé qu'eux, et donc ils vont subir les persécutions tout en restant fidèles au roi. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de tentative de régicide du côté protestant classique, on va dire, mais même pas dans les écrits, quoi. Personne n'a écrit en disant « il faut tuer le roi » à aucun moment. C'est le roi, on n'y touche pas, il est mal informé, le roi est mal informé.
Les poèmes de Malherbe sont splendides.
Bonsoir. Personnellement, je suis très gêné avec le terme poésie protestante.
Moi aussi.
Je n'y comprends rien.
Ouais.
Parce que si Racine avait été protestant, si Corneille avait été protestant, sa pièce de théâtre, Polyot, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre chrétiens, on appellerait ça poésie protestante. Pour moi, ça n'a aucun sens. Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, pourquoi pas. Et je suis étonné que vous n'ayez pas cité l'anthologie du sentiment religieux de Henri Brémond, qui est une œuvre magistrale, qui retrace dans l'histoire de la poésie française, justement, le sentiment chrétien depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et alors, c'est un ouvrage de pratiquement 10 tomes.
Alors, je n'utilise pas le terme poésie protestante. Mon anthologie... Non, mais,
moi, je ne peux pas non plus.
Oui, mais le travail que j'ai fait... J'entends bien ce que vous dites. Hein. Non, mais le travail que j'ai fait, c'est une anthologie protestante de la poésie française. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est les traces de protestantisme dans la poésie de langue française. Et au début, c'est assez facile parce que vous avez les poètes protestants et les autres. Bon. On va prendre un exemple. L'exercice protestant par excellence, c'est la traduction versifiée des psaumes. Voilà. Il y a une version formidable au XVIe siècle, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, qui est catholique et qui est très bien. Ce n'est pas du tout un problème. Claudel, qui est un anti-protestant primaire, va aussi faire cet exercice dans un genre assez particulier. Et voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des genres littéraires où les protestants se sont reconnus. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est le point de vue qui est abordé ici. Si vous faites une anthologie, et c'est tout à fait faisable, j'y ai pensé d'ailleurs, une anthologie de la poésie religieuse, ou une anthologie de la poésie chrétienne, c'est pas du tout, non seulement le même livre, mais chez les auteurs concernés, c'est pas non plus les mêmes textes, parce que c'est un autre point de vue. Après, ça dépend. Donc, moi, j'ai fait de longues études de théologie protestante, et ce qui m'intéresse, moi, c'est le dimanche, quand je suis au culte, un culte protestant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, quelle liturgie on va utiliser. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce travail. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'aspect chrétien, c'est l'aspect vraiment protestant. Quels sont les textes dans lesquels les protestants peuvent se reconnaître, où leur foi a pu se développer, voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était de mettre à disposition de ceux que ça intéresse les quelques ouvrages que, visiblement, peu de monde connaît, qui sont les grands ouvrages sur le sujet. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une anthologie de la poésie chrétienne, c'est très possible, c'est super intéressant, mais c'est tout à fait un autre ouvrage et ça a une autre destination, en fait. C'est pas la même chose. Mais j'entends bien ce que vous dites, tout à fait. Mais le terme poésie protestante, pour moi, alors c'est vrai que c'est dans le titre de la conférence, mais c'est un peu provoquant, c'est un abus de langage, en fait. C'est la poésie, ça pourrait être la poésie que les protestants ont développée. Et vous avez bien vu que c'est par période, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes genres littéraires par période. Ça m'a aussi beaucoup intéressé. Si vous parlez que de la poésie chrétienne, vous avez pu ces dates qui sont des dates marquantes et on rate quelque chose du point de vue protestant. Mais je pense que l'anthologie de la poésie religieuse qui est chez Gallimard, je pense qu'il faut la refaire complètement. C'est Dominique Horry qui l'a faite. Je pense qu'il faut la refaire, elle n'est plus du tout à jour. Voilà.
D'autres questions ?
Merci pour cette conférence. On mesure dans les Cévennes l'importance des psaumes.
Ah oui.
Parce que ça a été facile à mémoriser, puis c'était des psaumes qui parlaient à la culture de ces Cévenols. Alors que j'ai lu que les premiers psautiers qui sont arrivés à Nîmes, les gens n'ont pas su quoi en faire. C'est en quelques années que ces psaumes sont devenus synonymes ont construit l'identité protestante. Alors qu'au départ, c'était pas évident.
Oui, tout à fait. Quand les pasteurs ont dû partir et que les gens sont restés, parce que les gens qui sont restés, ceux qui avaient la possibilité de partir sont partis. C'est-à-dire, en gros, ceux qui avaient de l'argent ont pu partir. Il y avait des filières, ils sont partis dans toute l'Europe, à Berlin, en Hollande, en Angleterre, etc., etc. Ceux qui sont liés à la terre ou ceux qui sont trop pauvres pour partir se sont retrouvés. Ils ne voulaient pas renier leur foi. Et ils se sont retrouvés sans pasteur. Donc il y a eu ce moment particulier de l'histoire du protestantisme qui est la révolte des Camisards. Et il fallait quelque chose pour, les pasteurs n'étant plus là, il fallait quelque chose pour alimenter, pour le dire de façon un peu triviale, alimenter cette foi. Et donc ce qu'ils avaient simplement, c'est les cantiques. Et ça les a vraiment nourris, ça les a tenus, et ils allaient même se battre en chantant les cantiques. Donc ça a une importance là absolument... considérable longtemps après la mort de Marot et de Théodore de Bèze. Et ça a alimenté. C'est difficile de. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est difficile de comprendre l'histoire du protestantisme en France si on n'a pas cette influence de la poésie, et d'une poésie assez particulière, puisque comme je l'ai dit au début, Clément Marot, il n'est pas totalement protestant. Donc c'est une décision forte qu'a pris Calvin. Je suis sûr qu'il était persuadé de l'importance de la chose et il voulait que ce soit le meilleur poète de son temps qui travaille ces textes-là. Et une fois que Marot est mort, le meilleur, c'est Théodore de Bèze. Donc Théodore de Bèze a poursuivi. Et avec les résultats que l'on sait, sachant qu'on chante encore aujourd'hui dans les assemblées, en tout cas dans certaines, les psaumes de la Réforme dans une version du XXe siècle, mais on les chante toujours.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un temps de balbutiement dans les années 1560 avant que le psautier s'installe, c'est ça ? Et je pense que ça se comprend aussi, pour reprendre ce que disait Philippe, par le fait que le psautier est intégré dans la liturgie, mais avant que cette organisation liturgique passe en France, il y a un certain délai. Donc, d'autant que l'Église de France, qu'elle soit catholique ou protestante, prend toujours des distances avec le centre. Hein. On le sait du côté catholique avec l'Église gallicane, hein, qui prend ses distances avec Rome. Et l'Église de France, l'Église réformée française, se construit en parallèle et en opposition aussi avec la Genève de Calvin. Hein. Donc il va falloir du temps, c'est vrai.
Les psaumes viennent de Genève, en fait, puisque c'est Calvin qui est l'éditeur des psaumes. C'est lui qui a suivi toute cette opération. Et donc, oui, ça vient de l'étranger, ça vient de Genève. Ouais. Mm. Absolument. Mais il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que si on ne chante pas ça, on ne sait pas trop ce qu'on chante, du coup.
Est-ce qu'on a une idée de... Il y a eu un ouvrage qui avait été édité sur les complaintes, hein, du désert. Est-ce qu'on a une idée de la réception de ces complaintes, de la pratique de ces complaintes en plein XVIIIe siècle, donc en plein siècle des persécutions?
Alors, j'ai lu des choses sur le sujet. Il me semble que ça a été extrêmement important parce que c'est le récit des persécutions, en fait, se fait par le biais des complaintes.
Et ça continue au XIXe siècle?
Ça, je ne sais pas. Là, mon provincialisme alsacien fait que je ne suis pas totalement au courant de tout ce qui s'est passé. Mais j'imagine que dans les milieux ruraux, j'imagine que la trace est restée très très longtemps de ces complaintes. Donc j'imagine que ça a continué en milieu rural. En milieu urbain, ça m'étonnerait, mais en milieu rural, à mon avis, ça a continué très très longtemps. Et je suis même sûr qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui connaissent ou qui ont des souvenirs, des personnes âgées notamment, qui ont des souvenirs de ça.
Alors, pour sortir un peu des Cévennes, quelle est la place de la poésie, justement, en Alsace, au XVIIIe, toute cette période moderne? Au moment où ici, on subit la révocation, comment en Alsace ça se passe? Est-ce qu'on continue un rythme classique ou est-ce qu'il y a quand même des changements?
L'Alsace, c'est donc de langue allemande jusqu'à très récemment. Et donc, on est entièrement sous le règne de la liturgie allemande. Donc, vous savez que les Allemands, autant les Français, on peut dire que le protestantisme français est un protestantisme où la poésie a une importance considérable, et le protestantisme allemand est un protestantisme où la musique a une importance considérable, puisque c'est quand même la patrie de Bach, de Schütz, etc. etc. Bon. Et il y a des cantiques allemands. Moi, par exemple, dans ma pratique de pasteur, je suis pasteur en Alsace, dans un village qui est à 15 km de Strasbourg, donc ce n'est pas non plus perdu dans la campagne alsacienne, j'ai mis un point d'honneur à ce que tous les dimanches, il y ait au moins un cantique en allemand. Voilà. Et aux enterrements, par exemple, quand la personne est une personne âgée dont la langue maternelle est l'allemand ou l'alsacien, on chante 2 ou 3 cantiques en allemand. Et tout le monde est super content. Donc c'est dire qu'il y a cette permanence jusqu'à aujourd'hui de la langue allemande. Et donc tout le répertoire, en fait, les gens ne connaissent pas les psaumes. Quand je programme un psaume, personne ne chante, ils ne les connaissent pas. Par contre, ils connaissent très bien le répertoire allemand. Mmh. Et aussi le répertoire, je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas le temps, mais le répertoire piétiste... de la fin du 19e, et voilà.
J'ai parlé au début, il y a une tradition minoritaire aussi là-bas dans l'Est, qui est la tradition anabaptiste. Est-ce qu'il y a des liens
Les liens sont récents. On s'est beaucoup persécuté, semble-t-il. Mais je sais que depuis les années... Mais c'est récent, c'est les années 80.
Mais au 18e siècle, c'est hermétique.
Ouais, c'est hermétique, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
Cette conférence. Merci à tous et je vous propose de remercier encore notre orateur Philippe François.